Et dans cette deuxième partie d'émission, nous vous proposons de poursuivre sur ce thème des liens qui unissaient la France au pays tchèque dans l'entre-deux-guerres, mais en prenant un angle plus précis et beaucoup moins évident. Antoine Marès a parlé des liens politiques et artistiques qui unissaient les deux pays. Moins connus sont peut-être les liens scientifiques. Un historien des mathématiques de la faculté de Jussieu à Paris, Laurent Maziak, s'est intéressé à ce sujet avec un collègue tchèque de Brno, dans le cadre de Barande, un programme de coopération européen. C'est ainsi qu'ils sont intéressés au destin et à la correspondance de deux mathématiciens, Maurice Fréchet, nommé professeur à Strasbourg à l'issue de la Première Guerre mondiale, et Bohuslav Hostinski, nommé à l'université Masaryk de Brno en 1920. Anna Kubichta s'est entretenue avec Laurent Maziak qui avoue lui-même sa surprise en découvrant ces liens finalement peu connus autour des sciences.
Très honnêtement, pour moi, ça a été partiellement une découverte. Enfin, c'est-à-dire, je me doutais bien qu'il y avait eu des échanges, j'allais dire, comme dans un peu n'importe quelle zone du monde, enfin en tout cas de l'Europe. Par contre, ce qui a été un peu une découverte pour nous, c'est de voir comment ça s'est inscrit en fait dans l'histoire plus générale, l'histoire bilatérale des relations entre la France et la Tchécoslovaquie, au moment où la Tchécoslovaquie a été créée et où il y a eu une recherche de la part d'un certain nombre de personnes, alors aussi bien des Français que des Tchèques, pour des raisons un peu différentes, de multiplier les contacts en question. Alors pour ce qui est des Tchèques, il y a eu une recherche d'augmentation de ses contacts avec la France pour contrebalancer ce qui était les contacts un peu plus, disons, traditionnels avec les pays germaniques, donc typiquement avec l'Allemagne ou avec l'Autriche. En particulier, les mathématiciens, qui souvent avaient plutôt des contacts avec les pays germaniques, ont cherché, après la Première Guerre mondiale, à avoir des nouveaux contacts, et en particulier, j'allais dire, avec les pays vainqueurs et la France au premier rang d'entre eux. C'est comme ça que le mathématicien dont je parlais, donc Bohuslav Hostinski, qui a donc été nommé professeur de physique théorique à l'université Masaryk en 1919, a cherché à établir des contacts réguliers avec la France et a en particulier mis en place tout un système de publications, d'échanges de publications avec différents instituts de mathématiques, en particulier en France.
Donc finalement, en fait, d'une certaine façon, ces relations scientifiques étaient teintées quand même à la base, enfin, partaient de, j'allais dire, de problèmes politiques. C'était teinté d'une certaine forme de, d'aspect politique et disons pour le coup un peu nationaliste, j'allais dire, derrière, puisque c'était un peu contre le côté allemand, quoi.
Oui, enfin disons que les choses sont extrêmement mélangées, c'est ça qui aussi fait leur intérêt, c'est-à-dire qu'il y a véritablement des raisons scientifiques également, en particulier même si comme je disais les contacts, en particulier les contacts officiels, étaient plus souvent dirigés vers l'Allemagne et la monarchie austro-hongroise avant la Première Guerre mondiale, il existait des contacts scientifiques, notamment avec la France, bon, qui était l'école mathématique de pointe, hein, avant la Première Guerre mondiale. Un certain nombre de Tchèques avaient été étudiés, en particulier en France, ce qui avait été le cas, par exemple, de Bohuslav Hostinski, à la fin des années 1907-1908, avait fait un séjour à Paris, en fait, de plusieurs mois, et s'était mis, disons, au contact des mathématiques françaises. Du coup, le fait que les liens aient été noués ou renoués avec les mathématiques françaises après la Première Guerre mondiale était assez naturel d'un point de vue scientifique. Par contre, s'est greffé, effectivement, là-dessus, toute une envie, un besoin de multiplier les contacts institutionnels pour assurer un peu à la jeune République, eh bien, une certaine place, disons, dans la communauté scientifique internationale, en tant que représentante officielle de la jeune science de l'Europe centrale. C'est particulièrement frappant si on regarde, par exemple, le premier congrès international de mathématiques qui a eu lieu après la Première Guerre mondiale, a eu lieu en 1920 à Strasbourg, un lieu très hautement symbolique aussi à ce moment-là. Et la délégation tchèque est absolument énorme, enfin énorme en proportion par rapport à la taille du pays. Sur 200 délégués environ à Strasbourg, il devait y avoir une bonne dizaine de délégués tchèques, ce qui évidemment est tout à fait important par rapport à la place du pays. Et là, il y a véritablement la recherche de relations politiques, d'établir véritablement des liens entre les deux communautés scientifiques institutionnelles.
Alors, si j'ai bien compris aussi, finalement, les Français ont, j'ai l'impression, ont répondu présent de ce point de vue-là, puisque ça correspondait aussi à une volonté politique, alors, d'une certaine manière, du côté français, puisque vous parlez justement des liens, enfin, d'une espèce de similitude entre l'Alsace, le cas de l'Alsace, qui était aussi sous domination germanique pendant pas mal d'années, et le professeur avec qui correspond Hostinski est nommé professeur en Alsace.
Oui, alors, les choses, là aussi, sont assez compliquées, ça fait... Là aussi, donc partie de l'intérêt de ces études. Pour ce que vous disiez au début, à savoir que les Français ont répondu présent, oui, tout à fait, au sens où ils se sont montrés très intéressés à établir des contacts, effectivement, avec les pays qui avaient été, disons, libérés du joug germanique, en particulier la Tchécoslovaquie. Et ils ont lancé une offensive un peu à grande échelle, une offensive de charme, disons, envers ces pays. Le cas de l'Alsace, en fait, a été utilisé un petit peu comme un ressort. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement découvert, enfin, auquel on n'avait pas du tout pensé avant de se plonger dans les archives et de regarder un peu comment les choses s'étaient passées. Effectivement, il y a toute une rhétorique qui est développée au lendemain de la Première Guerre mondiale pour mettre en parallèle le cas de l'Alsace avec le cas donc des pays libérés des empires centraux, comme je disais, donc en particulier la Tchécoslovaquie. On trouve dans les articles de journaux, dans les discours, de façon récurrente, ce thème que les Alsaciens sont particulièrement bien placés pour comprendre les Tchèques. Alors, quand je disais que les choses étaient complexes, c'est que, en fait, cette offensive de charme va fonctionner plus ou moins, en fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que les Français ont un peu péché, soit par orgueil, soit par innocence. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve aussi en Alsace. C'est-à-dire, pour commencer sur le cas de l'Alsace, les Français, en débarquant en Alsace, enfin disons, le gouvernement de Paris, en envoyant des représentants en Alsace, a été absolument persuadé que tous les Alsaciens allaient se jeter dans les bras, disons, de la nouvelle administration française. Alors ça s'est effectivement passé sur un plan, disons, émotionnel. Les Alsaciens étaient très contents de retourner dans le giron de la France, mais en même temps, ils tenaient beaucoup à leur particularité, pour ne pas dire à leur particularisme. Du coup, des choses se sont pas passées aussi simplement que le gouvernement français l'avait espéré. Et on retrouve la même chose avec la Tchécoslovaquie, parce que les Français, là aussi, ont pensé que les Tchécoslovaques allaient non seulement les accueillir à bras ouverts, mais aussi bien être très empressés de rendre visite à la France, d'organiser des voyages, etc., etc. Et en fait, les choses, bien sûr, d'un point de vue officiel, d'un point de vue institutionnel, les choses ont été très ouvertes, et incontestablement, dans l'entre-deux-guerres, la France est le grand contact scientifique de la Tchécoslovaquie. Mais en même temps, les Français ont un peu péché, comme je disais, par naïveté, parce que ils se sont pas forcément rendus compte que les Tchèques pouvaient aussi avoir envie de développer des contacts dans d'autres directions, et en particulier vis-à-vis des autres pays. On trouve des autres pays, je veux dire, de l'Europe centrale.
Et alors concrètement, dans l'entre-deux-guerres, comment ça s'est passé? Comment se sont concrétisés, disons, ces liens? Et est-ce qu'il y a eu, par exemple, des échanges entre des étudiants? Vous parliez de publications aussi tout à l'heure qui ont été lancées donc par Hostinski. Et je suppose que toute cette coopération, je suppose que Munich a été représenté un coup d'arrêt définitif.
Oui, alors ça, pour commencer par la fin, parce que là, effectivement, ça a été là les choses sont simples, c'est-à-dire que, bon, comme vous le dites, quoi, à partir de la fin 38, là, il y a un virage total et un arrêt absolument de quasiment tout. Alors, il y a une inertie, c'est-à-dire qu'on trouve, et même, ce qui a été ma grande surprise en regardant dans les archives, même pendant la période d'occupation, on continue à trouver, par exemple, des cours de français. Alors, c'est une des preuves tangibles de la multiplication de ces contacts, et en particulier de ces contacts scientifiques entre la France et la Tchécoslovaquie, c'est le fait, par exemple, que dans toutes les écoles, et en particulier dans les écoles scientifiques, il y a une multiplication, par exemple, des cours de français. Mais sinon, pour ce qui est des échanges, Bah en fait, notre surprise, ça a été, on s'attendait à en trouver énormément, en particulier parce que quand on lit la correspondance de d'Ossinski et de Fréchet, tous les deux, l'un comme l'autre, semblent très 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 volontaristes dans cette direction-là. Mais en fait, quand on regarde de près, quand on regarde les chiffres, bah on s'aperçoit que les Tchèques en fait sont relativement peu venus. Alors il y avait des raisons objectives qui faisaient ça, enfin des raisons matérielles, en particulier un très grand problème qui apparaît dans les années 20, lié au taux de change qui rend en fait les voyages quasiment impossibles. Il y a des lettres alarmistes de l'ambassadeur de France à Prague qui envoie des lettres à Paris pour dire « Oui, vous me demandez que des étudiants tchèques viennent en France, mais il faut que vous vous rendiez compte que, à moins que vous offriez de payer l'intégralité du séjour et du voyage, c'est absolument impossible. » Et il y a beaucoup de témoignages dans cette direction-là. Là aussi, c'est une illustration, comme je disais, que les Français avaient un peu péché par naïveté en pensant que les Tchèques allaient débarquer. Donc ça, c'est une raison matérielle, mais il y a aussi une autre raison, c'est que, incontestablement, la Tchécoslovaquie a été le pays où il y a eu le plus d'essais de développer une communauté nationale scientifique, et donc, évidemment, de garder sur place les meilleurs étudiants, de développer sur place des centres universitaires de recherche de pointe qui seraient capables de les accueillir. Et du coup, encore une fois, même si les intentions sont déclarées, en particulier au début des années 20, il y a des tas de déclarations flamboyantes, aussi bien tchèques que français, pour célébrer justement l'entente entre les deux pays et la multiplication souhaitée des contacts, en fait, dans les faits, les étudiants qu'on trouve en France sont plutôt sporadiques et en général sont plutôt venus pour des raisons personnelles. Enfin, quand je dis des raisons personnelles, c'est éventuellement par des liens personnels. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, un étudiant de Brno, en mathématiques, venir à Paris. Et il vient parce qu'il y a des contacts personnels entre des personnalités, disons, à Paris et à Brno. Mais c'est pas tellement dans le cadre institutionnel que les choses vont se passer.